Bon, on peut se voir alors quand? Bon, alors, eh bien, je n'ai... Alors, 25... Alors, attendez que je regarde un peu. Vous voulez que nous nous rencontrions un jeudi? Bon, alors, 6h30, 14, 15, 16, 18h30. Et vous êtes loin, vous? Oui, mais je peux monter à pied. Parce que les codes d'ascenseur, et je sais, j'ai une amie qui en a un, enfin, une connaissance, qui me répète toujours les mêmes choses. Ah, faut pas boire, il faut pas boire. Elle est petite, elle est grosse comme un veau marin, elle a 82, 3 ans. Ils sont drôles, les gens. Mais quand elle me voit, quand elle m'offre mon verre de Bordeaux, ou bien de Côte-du-Rhône, elle m'invite vers 5h30, 6h dans les cafés du coin. D'ailleurs, j'y vais plus depuis un moment. Avec elle, je dis non, je veux plus aller chez ces gens-là. Ils m'ont connue avec mon mari maintenant. Vous comprenez, ça fait 6 ans qu'il n'est plus là, mon mari. Il était plus haut que tout ça. Il était en avance. Alors il me disait, ah, tu es énervée quand tu bois. Mais il me disait, c'est la seule réflexion qu'il m'a faite. Une seule fois, je faisais attention quand il était là. Je disais, alors, il faut que je tienne la route, que je ne déconne pas trop. Alors j'allais dans la cuisine à côté, qui était une cuisine magnifique, dans le manoir, là. Et puis moi je mangeais quelques coups. Je dis, Yves, un coup de rouge? Il me dit, ben tiens, il y en a. Et puis, quand je revenais avec ma voiture, il me dit, tu vas te garer là-bas. Alors je me garais, me collais quelques bouteilles, et puis me collais plein de bouffe, des légumes, des trucs. Ah, mon mari était là, quoi. Et puis quand j'allais à Quimper, quelquefois je disais j'ai une course à faire à Quimper, je prenais ma voiture, et puis j'essayais d'y aller avec quelqu'un, quelqu'un qui était dans le manoir ou quelqu'un. Et puis j'allais boire un coup dans les cafés. Oh, qu'est-ce que c'est sympa, Quimper. Vous connaissez ? À dimanche. Bah, attendez, ah oui, alors, qu'est-ce que tu attends ? J'ouvre mon carnet. Samedi, d'accord, samedi. Parce que samedi, il y a encore des bus, le dimanche, il n'y a que dalle. Qu'est-ce que vous m'avez fait marquer ? 16. C'est quoi ? Oh non, je peux venir à... Non, je préfère venir à... 16 heures. 17 heures, on fait. Ça va? Bon, eh bien, c'est entendu. Samedi 5 heures. Premier étage. Vous regarderez quand même si vous me voyez.
C'est très simple. Dès l'enfance, puisque ces magnifiques régions de Bourgogne, dont je suis originaire, née de parents, grands-parents bourguignons, née à Paris mais bourguignons, quelques vignes de la famille à Chambol-Musigny, était quand même normal que nous allions parfois le dimanche rencontrer la cousine germaine de mon père, et il y avait donc les cinq sœurs qui partaient dans la famille. Il y avait un déjeuner, et puis un beau jour nous étions petites, et après le déjeuner, il y avait du café, il y avait ensuite une bonne gnôle, c'est-à-dire de l'eau de vie de prune, de la goutte. Et puis on trempait pour les enfants un petit sucre dans l'eau de vie. J'étais petite et le premier sucre, ce fut une merveille. Il se déclenchait quelque chose en moi, un choc. J'ai eu un déclenchement, je ne sais pas, j'ai eu un sursaut avec cette odeur et cet alcool dans le sucre bien trempé, évidemment. Mais j'en voulais un second. Je ne pense pas que la famille m'ait offert un... Et voilà, après, j'ai aimé enfin, mes parents ne faisaient pas boire de vin, mais... Puis après, quand la guerre est arrivée, ou c'était peut-être même pendant la guerre, puisque ma naissance est de 1934. Alors, nous allions donc à la campagne le dimanche, quelquefois, ou mes grands-parents, aussi en Bourgogne, qui avaient quelques maisons. Il y avait aussi dans la cave un petit tonneau, un beau tonneau de gouttes. Et du bon vin.
Les années, la fin du 19e a commencé la définition de l'alcoolisme par Magnus Haas, je crois, en 1870 ou peut-être avant, ou 60. Donc là, on commence à être dans des contextes où le pouvoir médical a également un grand pouvoir politique.
Quand je bois, je suis tellement drôle, c'est tellement drôle que les amis, mais si, encore un peu, et ça leur fait un plaisir de me voir faire le guignol parce qu'il y a l'alcool gay et l'alcool violent. Moi, il est gay, très gay, et parfois, j'ai beaucoup de pensées, de mémoire qui revient, comme François Sagan.
Je vais t'afficher la loi d'interdiction. Loi relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail, ainsi que la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté par le président de la République, promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er, sont interdits la fabrication, la vente, en gros et en détail, ainsi que la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, visés par l'article 15 de la loi du 30 janvier 1907 et l'article 17 de la loi du 26 décembre 1908. On s'aperçoit tout de suite que si elle a été interdite en 1915, l'absinthe en France, il y a eu beaucoup de mouvements abolitionnistes qui ont voulu, anti-alcool, les anti-alcool, ou croix bleue comme on les appelle en Suisse, qui ont voulu interdire bien sûr l'absinthe avant, si on pouvait. Et on s'est servi notamment d'un cas de dramatique dans un petit village de communiers en 1905, un homme, alors comme on dit, sous ivresse de l'absinthe, a développé une violence telle qu'il a tué femme et enfant et s'est suicidé ensuite. Donc en fait, la Suisse a proposé un référendum par la suite aux différents cantons, et seuls deux cantons suisses ont refusé l'interdiction de l'absinthe. C'est le canton de Neuchâtel, bien sûr, là où c'était produit, et le canton voisin de Genève, un grand amateur d'absinthe, et qui fut ensuite une région productrice d'absinthe. On voit des pétitions contre l'absinthe. Elle dit, attendu que l'absinthe rend fou et criminel, qu'elle provoque l'épilepsie et la tuberculose, et qu'elle tue chaque année des milliers de Français, attendu qu'elle fait de l'homme une bête féroce, de la femme une martyre, de l'enfant est dégénérée, qu'elle désorganise et ruine la famille et menace ainsi l'avenir du pays. Attendu que les mesures de défense spéciale s'imposent impérieusement à la France, qui boit à la seule plus d'absinthe que le reste du monde. Pas la référence, c'est Émile Chesson, c'est la Ligue nationale contre l'alcoolisme, Union française anti-alcoolique et Société française de tempérance réunie. Et il n'y a pas de date sur ce document, je pense qu'on peut le dater justement, oui, fin du 19e. Hein. C'est courant ce genre de commande. Voilà, affiche de prohibition maintenant. Affiche de prohibition. On voit ici le cri d'alarme. Cri d'alarme, on voit un homme sur un toit en train de crier un message à la population. On lit une voix pour tous et pour chacun. Chaque verre d'absinthe est un pas vers la folie. Chaque bouteille d'alcool mène à la ruine.
J'ai beaucoup de flashs et ce sont des gènes finalement, parce que maman ne boit pas, n'a jamais bu. Mes sœurs non plus. Sur les cinq sœurs, je suis la quatrième. Je suis donc la plus facile. Un psychiatre m'a dit un jour, en passant, j'étais jeune, m'a dit que j'étais dans un restaurant avec des amis, j'étais jeune. Il m'a dit que j'avais des réactions de dernière, de famille de filles. Je me prenais pour un petit garçon quand je montais sur les arbres, sur les toits, partout, je faisais des sottises partout. Je pense que j'ai commencé à... Vingt-dix-huit ans.
Dans un rapport, dans une thèse qui a été publiée à Besançon dernière, enfin, il y a quelques années, une des rares thèses qui s'intéresse uniquement à l'absinthe, donc c'est en médecine, très ouvertement, l'absinthe est un stimulant. Et longtemps, on a associé à l'absinthe des vertus hallucinogènes, psychotropiques, diverses, qui apparemment ne sont pas vraiment justifiées, quoi. Pendant longtemps, on a rapproché cette fameuse molécule de thuyone à la molécule du THC, par exemple. Mais les similitudes entre les connecteurs neuroniques ne sont pas les mêmes. On ne peut pas faire le parallèle aussi vite, quoi. Maintenant, dans la réalité des faits, presque tous les gens que j'interroge m'avouent que l'absinthe, pour eux, leur procure des sensations tout de même différentes par rapport à un autre alcool. Souvent, j'entends dire « oui, mais ça, c'est un alcool qui va moins casser l'esprit, moins alourdir le consommateur, le buveur. C'est un alcool qui est envisagé comme plus léger, souvent, comme quelque chose de plus aérien. D'ailleurs, dans les descriptions, une idée de subtilité rejaillit, que ce soit au niveau de la description du visuel du trouble ou dans l'exécution minutieuse de la préparation, ou encore dans la délicate attention et la quête très difficile d'essayer de percevoir les différentes saveurs d'une absinthe.
Quand je bois une certaine quantité de vin, parfois je voudrais en reboire un autre verre, mais je ne peux pas. J'ai une limite. Je la sens rapidement. Quand j'étais jeune, je prenais des whisky coca. C'était bon. Parfois, avec ce magnifique whisky qui s'appelle irlandais. Et quand je prenais d'autres whisky, j'en prenais un le soir, un second. Et quand je prenais le troisième, le lendemain matin, tout ressortait. J'étais très bien, je ne pouvais pas manger de la journée, je buvais de l'eau. Et puis tout allait bien, le lendemain, je ne recommençais pas. Certains jours, j'étais dans le salon des vins, et puis quand je bois trois verres, ça y est, deux verres, ça dépend des jours, ça dépend des moments. Et puis je dis, oh, je pourrais pas remonter l'escalier roulant. Alors souvent, personne me met dans mon ascenseur, des amis. Ou quand les amis m'invitent, c'est tellement bon que je ne me rends pas compte. Donc c'est terrible parce que quand on a des réactions enfantines, c'est grave. Il faut être toujours souvent assisté.
L'étonnement, en fait, c'est lorsque la boisson vraiment se révèle. Et l'acte de préparer est important pour celui, pour l'absinteur, pour l'amateur. Il va prendre tout autant de plaisir, mais aussi d'importance, de soin, à veiller à ce que la réaction visuelle, mais aussi odorante, parce qu'en même temps, l'idée, c'est que faut que ça soit beau visuellement pour que ça soit également bon au niveau de l'odeur, des saveurs ensuite qu'on pourra en plus avoir. C'est lorsque les essences, les huiles essentielles qui sont contenues dans la boisson se troublent, se mélangent, se bousculent dans un tour. Formant des tourbillons et restant généralement au fond. Au même moment se forme ce qu'on appelle un plateau, généralement pour désigner la partie supérieure de la substance liquide. Un plateau qui va, au fur et à mesure qu'on va rajouter de l'eau, disparaître peu à peu.
On y allait, puis il foutait des coups de genoux, un numéro, puis on avait dit parti gratos. Et à Genève, on était garé comme on était calé comme ça pour l'après-midi. Et j'ai appris à jouer au bowling, je faisais des strikes. Quand j'étais jeune, mais je faisais des strikes tout le temps. Je me mettais un peu en biais. Et puis, j'en sais rien. Crac. Ah, mais je suis très adroite. Je suis très rapide et j'ai pas beaucoup lu de livres entiers. J'ai jamais appris la table de multiplication, ça me dérangeait. C'est pour ça qu'hier je vous ai fait répéter les numéros, parce que j'ai une manière de... Par exemple, un code qui est B164, on peut pas me dire... Il faut que je fasse 704 ou 1664, vous comprenez? Je ne peux pas dire 166-4 parce que je mets 100 et puis j'oublie la moitié des autres chiffres et je mets un 4. Vous comprenez comme je décortique les chiffres?
Donc en fait, moi j'ai essayé de ben, pour mener à bien mon enquête, j'ai pratiqué donc une ethnologie de terrain, c'est-à-dire j'ai essayé de pénétrer dans les mondes sociaux divers et variés de l'absinthe à la rencontre des différents informateurs.
Ça m'est arrivé après un dîner de sortir. Et comme c'est un milieu où il y avait du bruit, quelqu'un qui avait chanté, quelque chose, tout d'un coup, clac, je suis tombée d'un seul coup.
J'utilise la méthode d'entretien. Je réalise aussi, lorsqu'il m'est possible, d'être dans une, je dirais, dans une, un rapport assez proche avec l'informateur, de réaliser des biographies ou de faire des récits de vie.
On m'a relevé, ça allait très bien.
Donc en fait, j'ai fait des observations de contexte d'absorption dans des bars, dans des restaurants. J'ai visité des distilleries, j'ai regardé.
Il était assis, il s'est arrêté le bus, et puis le feu vert est arrivé. À quelques mètres, il y a l'arrêt, et le feu, l'arrêt est à côté. Je me suis levée, clac, par terre.
J'ai scruté les moments où le distillateur va mettre les plantes dans l'alambic, va rajouter l'eau, va peser son alcool.
Deux gars ont essayé de me lever, impossible. Ils m'ont encore relevé. Je leur ai dit, ça va? J'aurais demandé si ça allait à eux.
Je n'étais pas là pour dénoncer personne, je n'étais pas là pour piquer ou voler des recettes ou pour... voilà. Donc ça a été l'ouverture vraiment du terrain. J'ai vraiment compris en fait que les choses s'ouvraient lorsque en fait mon tout premier distillateur clandestin m'a dit « Bon, maintenant je crois que c'est temps pour toi que tu viennes voir comment ça se passe en cuisine. »
Je suis descendue de l'autobus, Schmitt était derrière moi. Puis ça allait, mais trois jours après, aïe aïe aïe, il a fallu que je me soulage de 190 euros pour ma gueule, de tout quoi. Parce que je me suis déplacée de Vertèbe il y a deux ans chez une de mes sœurs, je suis tombée d'un étage comme ça, avant je me suis tapée d'une marche, je me suis fait un étage chez un ami de mon mari.
Donc là, c'est un peu, pas un adoubement, mais... on sent que voilà, là les choses s'ouvrent et on va enfin voir ce qui se passe.
Les escaliers, le deuxième, j'avais des godasses, c'est pas une histoire de talons, c'est une, les marches sont un peu bombées. Je me suis fait tout l'étage. J'avais mal un peu là. Puis après chez ma sœur Marie-Claude, hop, deux vertèbres.
J'ai été obligé d'apprendre, de découvrir par moi-même, mais aidé aussi par ceux qui m'initiaient, les différentes subtilités, les différentes manières de capter, de sentir, de ressentir, d'envisager ce qui se passait en moi.
Je suis partie à Granville, donc chez ma nièce, enfin, quand elle y était encore, il y a un an et demi, et puis un gars qui avait fait des petits explosifs, qui est devenu aveugle à 17 ans, qui est un... Il m'a réparé avec quelques séances, en me parlant surtout, pour savoir comment il fallait, et puis j'avais deux vertèbres déplacées.
Quand je dis ce qui se passait en moi, c'était pas... Parce que bon, l'inconvénient d'un terrain comme celui-là, c'est qu'il faut garder la tête froide pour pouvoir continuer un entretien avec un informateur, en sachant qu'on consomme, on boit de l'alcool et qu'il faut rester serein et dans le processus de l'enquête. Toujours être en mesure de pouvoir questionner l'autre. Être toujours en mesure de pouvoir engranger de l'information.
Mais j'étais en chariot.
Et donc oui, j'ai été obligé de m'initier.
Je prenais un taxi pour aller chez le kiné, il n'a rien vu. Ça se voit pas comme ça.
On ne disait jamais les noms, donc on donnait des pseudos. En fait, ce monsieur, on l'appelait le Tub. Le Tub, ça a été la figure d'un des plus grands vendeurs d'absinthe. Voilà. Et il s'appelle Monsieur Lebet, L-E-B-E-T. Et en fait, son pseudo, c'était le Tub. C'est marrant, c'est marrant. C'est un verlan.
Mais j'ai des accidents, à mon avis, ça doit être des malaises psychiques. C'est pas des malaises de pinard, c'est des malaises de... Quand ça ne va pas, j'ai des... Il faut que je sois avec mon amour, avec... Quelquefois, on me disait arrête, j'ai une hernie, ça me fait mal, arrête de me faire rire, arrête-toi. Il me disait, c'est génial, il me dit, les choses les plus simples sont les plus hautes.
J'ai goûté le produit, je me suis dit, mais comment un produit aussi infect a pu traverser dans le temps les imaginaires? Et en revenant en France, je me suis aperçu qu'aucun travaux... anthropologique n'a été entrepris sur l'absinthe. On trouve des thèses traitant d'absinthe uniquement en pharmacie ou en médecine. J'ai trouvé ce sujet particulièrement fait aux yeux glauques, fait aux yeux glauques, en manteau prune, coiffé d'opales et baguets d'émeraude, tes sœurs jalouses ont pu obtenir des méchants qui se bannissent. Je l'ai aidé à faire ses courses, je l'ai emmené en voiture, je l'ai ramené chez lui, j'ai trinqué avec lui, puis je l'écoutais me raconter de ce qu'il pouvait bien se souvenir. J'ai fréquenté aussi des homes médicalisés pour justement recueillir la parole de ces gens, de ces personnes qui ont vécu l'absinthe clandestine dans son épopée. J'avais rencontré un autre monsieur, un célèbre ferblantier, fabriquait tous les alambics clandestins, ou beaucoup d'alambics clandestins dans le Val de Travers. Fais aux yeux glauques, fais aux yeux glauques, en manteau prune.
Et bonjour mon copain.
Coiffé d'opale et baguets d'émeraude, tes sœurs jalouses ont pu obtenir des méchants qu'ils te bannissent.
Mais oui, bien sûr, mais oui, on va se promener.
Mais nul ne saurait se hisser sur ton trône de sinople. Ça, c'est un texte d'Ernest Tisserand. Qui s'appelle La fée aux yeux glauques.
Et bonjour mon copain. Mais oui, bien sûr, mais oui, on va se promener. On va se promener au bord de l'eau. Mais oui. Miaou.
Moi, ce que je... Mais, ou même encore les clandestins actuels, les anciens, sont des personnes qui ont toujours l'œil vif et dynamique. Comme ils disent, même s'ils prennent beaucoup de peine à produire une absinthe, ça leur fait plaisir en même temps de ils prennent beaucoup de plaisir à mettre autant de peine dans l'ouvrage.
Ça va bouillir. Vas-y, fonce, Marcel. T'as le chemin dans la smoule.
En ce qui concerne ces personnes, ils étaient, je dirais, pas assez en mesure de...
Mais tu sais, papa, les bourrins, quand ils passaient pour aller au guet, j'étais assise... Sur le bourrin du milieu.
J'ai pas pu les interroger sur leur volonté profonde. J'ai eu que des informations factuelles.
Et puis, les chevaux, les bourrins.
J'ai pas pu les interroger sur leurs ressentis. C'est parce qu'ils sont restés très vagues. C'était des personnes d'un certain âge, presque en fin de vie.
Allô, ça va, Ernestine? Tu te relèves les vaches.
Ils ne pouvaient plus communiquer sur... Je dirais là, ce qu'ils éprouvaient, quoi.
Ça, c'était la cousine de son père, non. Non, une voisine, la mère Lamy.
Elle parlait comme ça.
Oui, elle disait, ça va, Ernestine, barre-toi. Elle avait des pieds dans le pur, hein. Et puis son fils et tout. Moi, je prenais des faucheuses, hein. Tu sais ce que c'est qu'une faucheuse? Une faucheuse, ce sont des araignées qui ont des grands mollets maigres.
Hein. Ah, d'accord.
Ouais. Tu vois, des faucheuses. Et moi, j'avais... Je les regardais, mais en biais. Et je les prenais au cul.
Le grand mollet, mais délicatement, comme les lézards. J'avais la queue dans les mains.